Pêché par Juan Diego et loupé dans tes orisés. Un charognard des décharges restera toujours charognard. Les pépénadores gardent toujours avec eux le produit de leurs fouilles, bien longtemps après qu'ils ont cessé de récupérer l'alu, le cuivre ou le verre. Ils cachaient astucieusement leur argent dans leur chambre. Les religieuses ne le trouvaient jamais. Esperanza, si. Et elle leur en volait, quand elle en avait besoin. Mais elle les remboursait à sa manière. De temps en temps, quand la nuit avait été lucrative, elle glissait des billets sous l'oreiller de sa fille ou de son fils, qui reniflait toujours avant les nonnes l'argent que leur mère avait déposé. Son parfum vendait la mèche. « Lo siento, madre », dit tout bas Juan Diego au moment où son avion atterrissait à Manille. À 14 ans, il n'était pas encore capable d'éprouver de la compassion pour elle, pour l'enfant ou l'adulte qu'elle était. Chez les jésuites, et surtout pour le père Alfonso et le père Octavio, le mot « charité » était un mot-clé. C'était par charité qu'ils avaient engagé une prostituée comme femme de ménage pour lui offrir une deuxième chance. Et oui, c'était bien par charité jésuite que les niños de la Basura s'étaient vus accorder le statut d'orphelin. Car enfin, ils avaient une mère, pour irresponsable qu'elle fût. Le père Alfonso et le père Octavio était à coup sûr convaincu d'avoir fait preuve d'une charité exceptionnelle en allouant à Juan Diego et à Lupe une chambre et une salle de bain pour eux seuls, sans prendre en compte le fait que la petite dépendait de son frère comme interprète. Les deux vieux prêtres se figuraient-ils ce qu'elle deviendrait sans lui? Les autres orphelins occupaient des dortoirs séparés, y compris lorsqu'ils étaient frères et sœurs. Les garçons à un étage, les filles à un autre avec des sanitaires communs pour chaque sexe, mais de plus grands miroirs chez les filles. Leur parentèle, s'il leur en restait, n'avait pas la permission de monter dans les dortoirs lors des visites, tandis qu'Esperanza pouvait aller voir Juan Diego et Lupe dans leur chambre, aménagée au sein d'une ancienne bibliothèque dite « salle de lecture pour les chercheurs de passage ». La plupart des livres étaient encore sur les rayons qu'Esperanza époustait, car, on le répétait à satiété, c'était une femme de ménage des plus consciencieuses. Bien entendu, il aurait été malvenu de la séparer de ses enfants. Elle avait elle-même sa chambre à l'orphelinat dans l'aile des domestiques. Seules les femmes y étaient logées, peut-être pour protéger les enfants, ce qui ne les empêchait pas d'être farouchement convaincues, Esperanza la première, et elle ne mâchait pas ses mots, que c'était surtout des prêtres, ces maniaques de la chasteté, qu'il fallait les protéger. Personne, pas même Esperanza, n'aurait accusé le père Octavio ou le père Alfonso de cette pédophilie répandue dans le clergé et qui a fait couler tellement d'encre. Personne ne croyait les orphelins en danger auprès d'eux. Quand les bonnes parlaient des enfants victimes de prêtres censés être chastes, elles évoquaient la chasteté contre nature chez les hommes. Sans aller jusqu'à dire qu'elle était naturelle chez les nonnes, plus d'une femme de service les aurait enviées de ne pas avoir accouché. Il n'y avait qu'Esperanza pour décocher, forcément regardez-les qui voudraient les baiser. Flèche acérée autant qu'injuste, comme bien des propos d'Esperanza. Comme on l'imagine, le sujet de la chasteté, contre nature ou pas, ne manquait pas d'apparaître dans les nombreux débats nocturnes entre frère Pépé et Edouard Bancho. Le missionnaire s'efforçait de rire de ses flagellations, disant à Juan Diego que c'était une bonne chose qu'il ait une chambre pour lui seul. Mais Juan Diego savait que le flagellant partageait sa salle de bain avec frère Pépé. Celui-ci trouvait-il des traces du sang du missionnaire dans la baignoire ou sur les serviettes? Tout en étant pour sa part hostile aux mortifications de la chair, Pépé jugeait amusant que le père Alfonso et le père Octavio, qui sur les autres sujets s'estimaient supérieurs aux jeunes Américains, louent ces pratiques douloureuses. C'est très XIIe siècle, se pâmait le père Alfonso. Le rite est digne d'être perpétué, renchérissait le père Octavio. Quel courage, pensaient les deux jésuites, en dépit de leurs réserves sur sa personne. Et toujours au grand amusement de Pépé, il continuait de critiquer ses chemises hawaïennes flottantes, sans même songer que les perroquets polynésiens sur fond de jungle, avec leurs couleurs tapageuses, cachaient ses saignements permanents. La salle de bain qu'ils partageaient ainsi que la proximité immédiate de leur chambre faisaient de Pépé et d'Eduardo des colocataires improbables à l'étage même où les gamins de la décharge dormaient dans l'ancienne salle de lecture. Ils percevaient sans nul doute les allées et venues d'Esperanza, qui passait autour de minuit ou aux petites heures du matin, plus comme un fantôme que comme une vraie mère. Pourtant, la femme de chair avait de quoi déconcerter ces deux hommes qui avaient fait vœu de chasteté, et de son côté, elle devait parfois entendre Edouard Bancho se flageller. Elle était bien placée pour savoir que les planchers de l'orphelinat étaient propres, puisque c'était elle qui les briquait. Par conséquent, quand elle venait voir ses enfants, à des heures où tout le monde dormait, elle marchait pieds nus pour ne pas faire de bruit. Oui. Elle venait embrasser ses enfants dans leur sommeil. Et en cela, elle ressemblait aux autres mères. Elle venait aussi les voler ou déposer quelques sous parfumés sous leur oreiller. Mais le but principal de ces visites silencieuses était d'occuper leur salle de bain. Elle avait sans doute besoin d'un peu d'intimité, car elle devait en manquer aussi bien à l'hôtel Somaga que dans l'aile des domestiques à l'orphelinat, et aspirait à prendre un bain seule. Et qui sait comment les autres bonnes la traitaient? Avait-elle envie de partager leur sanitaire avec une putain? Rivera avait laissé son levier de vitesse en marche arrière, et il avait roulé sur le pied de Juan Diego. À cause de ce rétroviseur latéral cassé, les gamins de la décharge dormaient désormais dans l'ancienne bibliothèque de l'orphelinat. Et parce que leur mère y était femme de ménage, et se prostituait d'ailleurs, elle hantait l'étage même où le nouveau missionnaire vivait. Cette disposition n'aurait-elle pas pu durer? Cette donne n'aurait-elle pas pu convenir à toutes les parties? Pourquoi les enfants n'auraient-ils pas préféré au bout du compte vivre à l'orphelinat plutôt que dans leur bicoque sur la décharge à Guerrero? Quant à Esperanza, cette beauté du diable, et Edouard Bancho, ce flagellant infatigable, était-il absurde d'imaginer qu'ils auraient pu profiter de quelques enseignements mutuels? Edouard Bancho aurait gagné à entendre ce que Speranza pensait de la chasteté et de la flagellation, et il est clair qu'elle aurait eu à dire sur son désir de sacrifier sa vie pour les péchés d'une seule prostituée en une seule nuit. De son côté, il aurait pu lui demander pourquoi elle se prostituait encore. N'avait-elle pas un emploi, un toit au-dessus de sa tête? Était-ce par vanité? Lui importait-il davantage d'être désiré que d'être aimé? Mais l'un comme l'autre, n'était-il pas extrémiste? Un juste milieu aurait peut-être eu ses vertus. Lors d'une de leurs nombreuses conversations nocturnes, frère Pépé présenta les choses en ces termes à Eduardo. « Dieu de miséricorde, il doit bien y avoir un moyen terme pour que vous puissiez prévenir les péchés d'une seule prostituée en une seule nuit sans sacrifier votre vie pour autant. » Mais ce problème ne serait pas résolu. Jamais Edouard Bancho n'explorerait le moyen terme. Ils ne vivraient pas assez longtemps ensemble, tous autant qu'ils étaient, pour savoir ce qui aurait pu advenir. La faute au mécréant, à l'humaniste laïque, ennemi juré du catholicisme. Ils auraient pu avoir une petite vie tranquille, orphelin sans lettres, orphelin avec privilège en tout cas. L'histoire aurait pu connaître un dénouement heureux. Mais Vargas avait prononcé le mot « cirque ». Il en avait semé les graines. Or, quel enfant n'aime pas le cirque, ou ne se figure pas l'aimer? Chapitre 11. L'arnaque au stigmate. Lorsque les gamins de la décharge avaient quitté leur bicoque de Guerrero pour les enfants perdus, ils avaient emporté presque autant de pistolets à eau que de vêtements. Bien entendu, les nonnes allaient les leur confisquer, mais Lupe ne les laissa trouver que ceux qui ne marchaient plus, et elles ne surent jamais à quoi ils servaient. Juan Diego et Lupe s'étaient entraînés sur Rivera, se disant que s'ils arrivaient à le berner, l'arnaque au stigmate prendrait avec tout le monde. Mais ils ne le bernèrent pas longtemps. Ils faisaient la différence entre le vrai sang et le faux. Et puis c'était lui qui achetait les betteraves que Lupe lui réclamait jour après jour. Les enfants remplissaient les pistolets de jus de betterave allongé d'eau, à quoi Juan Diego mêlait un peu de salive, selon lui ça donnait une texture plus proche de celle du sang. « Explique texture, » demandait Lupe. L'arnaque fonctionnait comme suit. Juan Diego cachait le pistolet chargé sous la ceinture de son pantalon, avec sa chemise flottant par-dessus. Le plus sûr était de viser la chaussure de la victime, qui ne sentait pas le liquide se répandre, sauf lorsqu'elle portait des sandales. Les femmes Juan Diego aimaient bien les asperger par derrière sur le mollet. Le temps qu'elles tournent la tête, il avait déjà caché le pistolet. C'est alors que Lupe se mettait à babiller, désignant du doigt la zone qui saignait, puis le ciel. Car si le sang venait du ciel, alors sa source ne pouvait être que l'éternité.